Les matins de France Culture.
Avec d'autres nouvelles de l'international, grâce à vous Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Et ce matin, on débute par l'enfer.
Oui, nous avions ce monstre qui vivait sous notre toit et nous ne le savions pas. Hier, dans une interview au journal de Floride, Sun Sentinel, le couple qui avait accueilli Nicolas Cruz depuis la mort de sa mère, a décrit un jeune homme certes bizarre, solitaire, mais qui à aucun moment n'avait laissé paraître de signes de tendance à la violence. C'était un ami de leur fils. Et tout ce que tout le monde aujourd'hui prétend avoir senti, voire anticipé, nous l'ignorions, disent-ils. C'est aussi simple que cela. Sur la photo, Kimberly, 49 ans, infirmière, a le regard absent, non pas vide, mais trop plein, au contraire, de questions qui ne trouveront jamais de réponse. Son mari, James, 48 ans, analyste dans le renseignement militaire, a lui les yeux fermés, la tête dans ses mains. La veille du massacre, comme pratiquement tous les soirs, Cruz avait mangé un biscuit aux pépites de chocolat sur un sandwich au fromage. Cela faisait partie de ses habitudes. Et puis, il était allé se coucher vers 20h, comme à l'ordinaire, là encore. Le lendemain matin, en revanche, Cruz a précisé qu'il n'avait pas besoin qu'on le conduise à l'école parce que c'était le jour de la Saint-Valentin et qu'il préférait aller pêcher. La dernière fois qu'ils l'ont vu, il devait être 10h du matin. À présent, James et Kimberly se rappellent qu'en quittant leur domicile, Cruz avait dû probablement retirer le plâtre qu'il portait à la main droite depuis qu'il était tombé dans l'escalier de la maison. Toujours dans le récit a posteriori de cette journée du 14 février, le fils de James et Kimberly raconte qu'il avait reçu plusieurs textos de Cruz qui, tout en lui précisant qu'il n'irait pas au lycée, lui demandait dans quelle classe il se trouvait. Plus tard, les policiers armés frapperont à la porte du domicile en criant main en l'air. Lorsqu'ils ont demandé à Kimberly où était son fils, elle a d'abord supposé qu'il lui était arrivé quelque chose de terrible avant de se rendre compte qu'il ne parlait pas de lui, mais de Cruz.
Et puis, tandis qu'aux États-Unis, Thomas, chacun cherche toujours à comprendre ce qui a pu conduire à ce drame, la polémique a rebondi ce week-end.
Oui, dans une série de tweets, Donald Trump a accusé le FBI d'avoir négligé les signaux d'alerte qui auraient pu empêcher, selon lui, la tuerie du lycée de Parkland. Et pourquoi ? Parce que le FBI passerait trop de temps à enquêter sur le Russiagate et à tenter de prouver une collusion russe avec la campagne de Trump. « Il n'y a pas de collusion, revenez à l'essentiel et rendez-nous fiers », a ajouté le président américain, s'attirant aussitôt la colère de nombre d'élèves ayant réchappé à la tuerie. « 17 de mes camarades et amis sont morts et vous avez le culot de parler de la Russie, soyez maudits », a notamment tweeté Morgan, 16 ans. Votre manque d'empathie prouve à quel point vous êtes une personne lamentable, a écrit une autre élève, Carly. Comment osez-vous, encore réagit David, 18 ans, sur NBC. Honteux, a renchéri pour sa part Sally Yates, ancienne numéro 2 du ministère de la Justice.
Comment empêcher une catastrophe? C'est la question posée à la une du dernier numéro de The Economist.
Oui, avec ce titre, Retour en enfer, l'hebdomadaire britannique prévient la République démocratique du Congo. Le cœur brisé de l'Afrique se dirige vers un nouveau bain de sang et de rappeler que la RDC a été le théâtre du conflit le plus meurtrier dans le monde depuis les années 40. Là-bas, la guerre y a fait plus de victimes qu'en Syrie, en Irak, au Vietnam ou en Corée. Alors, pourquoi le pays s'enflamme-t-il à nouveau? Le mandat de son président s'est achevé en 2016, sauf que Joseph Kabila s'accroche au pouvoir et désormais, les flammes d'un véritable incendie sont en train de se propager. 10 provinces sur les 26 que compte le pays sont actuellement dévastées par des conflits armés. Des dizaines de milices répandent à nouveau la terreur. The Economist qui s'inquiète par ailleurs d'une contagion possible régionale de cette violence chez les voisins à la fois rwandais, ougandais, angolais, sud-soudanais ou encore centrafricains.
Et puis les élections de la peur, Thomas, cette fois-ci c'est en Italie.
Oui, c'est sous ce titre que l'éditorialiste du Temps raconte ce matin la déliquescence de la scène politique italienne à 15 jours maintenant des élections législatives ou quand l'Italie menace de redevenir ingouvernable. Le très affaibli parti démocrate de Matteo Renzi, prêt à discuter d'une éventuelle grande coalition, a fini de faire exploser la cohésion de la gauche. À droite, le Cavaliere, pourtant inéligible au Parlement pour fraude fiscale, pourrait, même si c'est très improbable, aspirer à un retour au pouvoir. Il compte pour cela sur l'alliance de son parti avec l'extrême droite et les post-fascistes pour tenter de décrocher une majorité permettant de gouverner. À cela, il faut encore ajouter un dernier sondage selon lequel près de la moitié des Italiens estiment que leur pays s'en sortirait mieux hors de l'Union européenne. Dès lors, il n'est pas étonnant donc que la Ligue, les post-fascistes et même le mouvement 5 étoiles fassent aujourd'hui de l'immigration le bouc émissaire des problèmes transalpins, créant un climat politique nauséabond au relent fasciste.
Et puis on termine par la Syrie. Thomas, l'Observatoire syrien des droits de l'homme redoute un assaut majeur sur l'enclave rebelle de la Ghouta aux portes de Damas.
Oui, l'assaut semble imminent. Hier soir, les forces du régime ont tiré plus de 260 roquettes et l'aviation a mené des raids intensifs sur plusieurs localités de la Ghouta orientale, d'où cet édito désespéré à lire ce matin sur le site Arab News intitulé « Quand la spirale sanglante en Syrie se rapproche de plus en plus de l'enfer ». Depuis quelque temps, combien de médias se sont félicités sur le mode « au moins c'est terminé ». Or, cette prétendue lumière aperçue au bout du tunnel a été aussitôt exploitée par la communauté internationale pour ne pas lever le moindre petit doigt. Sauf qu'aujourd'hui, la négligence internationale a permis à cette guerre hideuse d'entrer dans une nouvelle phase meurtrière.
Merci beaucoup Thomas Cluzel. On retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr.